France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour. Il n'avait assurément pas l'animalité électrisante d'un Horowitz, le panache d'un Rubinstein ou la spontanéité volcanique d'un Schnabel, mais Rudolf Serkin reste un des plus grands pianistes du XXe siècle. Interprète, le mot est inapproprié tant Serkin semblait vouloir s'effacer derrière la musique pour laisser la parole au compositeur. S'effacer mais pas disparaître, car Rudolf Serkin fait partie de ces artistes qui obligent à écouter, à se concentrer, à comprendre. À travers un essai qui relève autant du témoignage que de la biographie, André Tuboeuf, mon invité, nous rappelle qui fut Rudolf Serkin et comment il l'initia à la musique. Rudy, la leçon Serkin d'André Tuboeuf, édité par Actes Sud. Beethoven, le mouvement central allegretto de la sonate numéro 14, dite Clair de lune sous les doigts de Rudolf Serkin. Bonjour André Tuboeuf.
Bonjour Philippe.
Donc je l'ai dit, c'est un essai que vous consacrez à ce pianiste, Rudolf Serkin. Ce n'est pas vraiment une biographie, on va rappeler juste peut-être quelques dates. Il est né en 1903 en Bohème, mort en 1991 aux États-Unis dans le Vermont. Je vais parler de témoignages, parce qu'effectivement vous prenez souvent la parole, hein. Vous dites, ben voilà, je l'ai rencontré, je l'ai croisé, je l'ai entendu. Donc c'est vraiment un témoignage et votre écoute, votre façon d'avoir connu et d'avoir découvert la musique grâce à Rudolf Serkin. Et vous évoquez dans votre livre une de ces sonates à titre de Beethoven qui ont été disponibles après-guerre. L'enregistrement date des années 40. Et quand vous avez eu ce disque entre les mains et cette musique entre les oreilles, André Tuboeuf, qu'est-ce qui vous a émerveillé, intrigué, intéressé par rapport à ce qu'on pouvait connaître de Beethoven à l'époque?
Moi, en vérité, je ne connaissais rien du tout de rien, parce que je sortais de mes années d'internat à Louis-le-Grand, je venais d'Orient où je n'avais pas entendu de musique, par conséquent, mon initiation et mon éducation étaient tout entières à faire. J'ai eu la chance, en un sens, que au moment où il est né, le disque, enfin où il est né sous sa forme plus disponible de micro-sillon déjà, le disque ne se permettait pas des excursions dans n'importe quoi, forcément il se concentrait sur l'essentiel. Et si quelqu'un comme Serkin, qui n'était pas connu comme un soliste, qui est connu surtout comme le partenaire d'Adolphe Busch, et qui perçait comme soliste uniquement parce qu'il fallait bien qu'il gagne sa vie aux États-Unis, qui n'était pas particulièrement favorable à son type de musique à lui, tel qu'il le jouait. Mais moi, ce qui m'est apparu dans ce premier couplage des trois sonates les plus célèbres, je veux dire pathétique, clair de lune, appassionata, les sonates à titre, c'est ce que nous venons d'entendre, c'est-à-dire le maintien de quelque chose, une phrase qui est dite, qui est répétée, l'ordre, quelque chose d'à la fois impeccable dans l'exécution et d'inflexible dans la manière de concevoir l'exécution. Par là même, l'acte absolu de l'interprète qui s'engage tout entier dans la chose qu'il a à exécuter, et la neutralité émotionnelle totale. S'il y a une émotion, c'est la musique qui la donne, mais de toute façon, il ne peut la procurer d'une façon convenable que si se trouve manifesté d'abord l'ordre dans son inflexibilité. Et je dois dire que là, ça a été la marque absolue de Serkin dans son époque, qui était une époque qui tendait au romantisme, à l'affirmation de soi, qui tendait à l'inflationnisme sonore. Et il y a dans tout ce qu'il a fait une sorte de discrétion et de loyauté profonde. Et ce n'est pas simplement la loyauté vis-à-vis des intentions du compositeur, mais même une espèce de loyauté sonore, ce qu'il doit à lui-même, au public et au compositeur dans le temps même de son exécution. La loyauté du son du piano, la propreté du son du piano, cette musique parfaitement articulée qui vous dispense de faire des effets là où il n'y a pas à en faire. Alors je dois dire, ça a été ma chance de l'entendre très jeune, puisque j'étais encore très jeune et très débutant quand j'ai entendu ça à Hammerklavier en concert, ce qui n'est pas rien. Et j'ai eu la chance, enfin surtout, de le rencontrer de la façon la plus saugrenue qui soit. Je l'avais déjà rencontré une fois dans un Wienstube de Strasbourg. Mais lorsque j'étais le plus jeune membre du comité du Festival de Strasbourg, j'ai dû représenter en quelque sorte le comité à un dîner, voilà, qu'une dame patronesse donnait après un concert. Et le concert était celui de Serkin. Et quand la dame a eu placé aux places d'honneur le grand rabbin, l'évêque, le général commandant la place, etc., on a relégué au fin fond, au bout du bout, le pianiste Rudolf Serkin et le petit dernier, moi. Alors, avec le merveilleux avantage que ça a duré 1h15, 1h30, et que j'ai eu Serkin absolument pour moi tout seul. Pour moi tout seul, ce qui, dans aucune circonstance du monde... Alors, j'ai dû prendre mon courage à deux mains, enfin, pour le sortir de son mutisme.
C'était quelqu'un d'assez réservé?
C'était quelqu'un de parfaitement réservé, parfaitement ouvert dès qu'il était ouvert. Mais s'il n'y avait pas de raison de s'ouvrir, il n'allait pas s'ouvrir pour n'importe quoi. Donc, en aucun cas, il n'aurait manqué à la politesse. Bien sûr, aucun. Et la simple civilité. Mais enfin, c'est très facile de s'isoler dans son assiette et d'avoir l'air d'avoir sommeil. Non. Et moi, comme j'étais tout à fait incapable de lui parler de la musique qu'il avait jouée et d'entrer dans une espèce de discussion ou d'interrogatoire avec lui, je lui ai parlé des Busch, parce que je savais que à la fin de la guerre, il était quand même revenu avec eux, qu'il avait gardé des attaches, que s'il venait souvent à Strasbourg, c'est parce qu'à Bâle, il y avait encore des membres de la famille et qu'il allait les voir volontiers. Et c'est ainsi, voilà, qu'on a pu ouvrir quelque chose qui était à remplir plus tard, si vous voulez. Mais dans un premier temps, c'était déjà une prise de contact comme on n'aurait pas rêvé d'en obtenir une.
Le scherzo de la 7e sonate pour violon et piano de Beethoven par Adolphe Busch au violon et Rudolf Serkin au piano. André Tuboeuf, vous parliez tout à l'heure de la conduite de Rudolf Serkin, celle d'Adolphe Busch n'est pas mal non plus. Ces deux-là étaient vraiment faits pour s'entendre, pour travailler ensemble, et en plus ils ont eu quand même des rapports plus que professionnels.
Ben oui, il y avait 13 ans d'écart. C'est-à-dire que Serkin était encore un gamin de 18 ans. Busch était déjà le premier violoniste d'Allemagne et sans doute du monde. Et il a été adopté simplement dans la famille. Il a été adopté et progressivement il est devenu évident qu'il allait épouser Irène, la fille de Busch, qui de toute façon, quand elle avait 5 ans et qu'elle l'avait vu apparaître, avait dit « c'est celui-là que je veux épouser ». Ça c'est ce que rapporte la légende. Mais ils ont été réunis en plus, d'abord par leur goût et leur passion de la musique de chambre et de l'esprit dans lequel une façon de faire de la musique de chambre permet de faire ensuite de la musique d'orchestre sans se noyer dans les flatulences et dans les exagérations et puis un sens du partenariat et de l'écoute mutuelle qui est prodigieux, parce que rien au monde n'est aussi différent qu'une conduite de son de violon et une conduite de son de piano. Je veux dire, d'un côté on a le legato, de l'autre côté on a le staccato.
On a les marteaux, oui.
Pour dire les choses, voilà, sûr, on est réduisant. Ouais. Et là, au contraire, enfin, quelque chose du legato intentionnel du violon de Busch passe dans le piano de Serkin, qui n'est pas heurté, qui est musicien, qui est musical, qui est vocal.
Tout à fait. Ouais. Oui, il y a une ligne qui se déploie.
Et,
ouais.
Je dois dire que la première chose qui m'avait frappé, lorsque j'ai entendu, je pense que c'était notre première rencontre, et c'est pas à moi qu'il le disait, il venait de jouer la Hammerklavier. Et le seul commentaire qu'il faisait sur ce qu'il venait de jouer, sur la soirée telle qu'elle s'est dépassée, c'était « c'est le chant ». Le chant. Alors, ne parler que chant quand on est pianiste et qu'on vient de jouer la Hammerklavier, ça peut paraître paradoxal. Et pourtant, moi, c'est ce que j'ai toujours vérifié dans le chant de Sirkin, le caractère heurté et l'articulation du piano, qui est toujours maintenu comme tel, et une façon de faire le piano, non pas chanteur, ce qui n'est pas possible, mais chantant. C'est-à-dire que le moindre son qu'on en exprime soit chargé d'une valeur lyrique, émotionnelle et musicale, telle qu'habituellement seul le chant peut le fournir.
Sans que ce soit jamais charmeur.
Sans que ce soit jamais chanteur. Quand Beethoven écrit cantabile, il n'écrit pas que ça peut être chanté, il ne dit pas que c'est chantable, il écrit que c'est chantant. Et du chantable au chantant, il y a toute la différence de ce qui tire tout de suite sur les trucs émotionnels et ceux qui ne les tirent pas. Et je dois dire que toute une partie de la résistance du groupe Busch-Sirkin et l'autre frère de Busch, Fritz, qui était patron de la musique à Dresde, leur résistance, à un moment donné, s'est exprimée par le fait qu'ils ont quitté l'Allemagne qui devenait nazie. Mais dans un premier temps et avant, Fritz et Adolf s'écrivaient en disant « La musique elle-même est menacée en Allemagne par le sentimentalisme, le subjectivisme, le culte de la personnalité d'une certaine manière, le retour à un romantisme épique qui nous mènera, Dieu sait où, on sait où ça les a menés, mais on sait aussi, et on ne dira jamais assez, la conduite, alors là aussi, inflexible de Busch et de Sirkin. Mmh. Ce n'est pas parce que Sirkin est juif que vous avez à l'exclure d'un... Je ne participerai pas moi-même à un festival Brahms dans lequel de pareilles considérations d'exécution et de niveau artistique se posent. Ça a fait d'eux, bien contre eux, des résistants, simplement des exilés, et des gens qui avaient tout à fait le profond sentiment qu'étant obligés de s'exiler, ils avaient fait traverser à l'Atlantique, le meilleur de la musique allemande, qu'ils étaient en train d'emporter avec eux, son secret de fabrication, l'esprit dans lequel elle a été conçue et doit être jouée, et quelque chose que miraculeusement ils ont transplanté dès que la chose a été possible, quelque part dans le Vermont à Marlborough, je veux dire. Et ça voulait dire qu'au-delà de tout le reste, une vérité qui est celle de la musique de chambre, qui demande qu'on ait de très beaux maîtres et qui s'occupe très bien de vous, et si possible un campus où tout cela s'organise. Ce rêve-là, qui est le rêve collégial de la musique de chambre par excellence, ils ont réussi à le réaliser ensemble en terre américaine, à Marlborough, en terre promise d'une certaine manière. Busch est mort tout de suite et Sirkin qui a continué.
Mais André Tuboeuf, Busch et Sirkin partageaient cette vision de la musique débarrassée de tout sentimentalisme, de tout subjectivité envahissante. Il y avait également une vision comme très morale aussi de la musique.
Mais les deux choses vont... Je ne dirais pas cela. Je veux dire, la musique n'a rien à apporter de morale à qui que ce soit. Mais il y a une manière morale de se tenir soi-même quand on aborde la musique et qu'on va l'exécuter et qui ne peut pas ne pas se refléter dans ce qu'on joue. Et c'est en ce sens simplement qu'on est un interprète. Et non pas, je veux dire que le degré d'exigence s'enflamme en quelque sorte au contact de la lettre de la musique. Il faut que cette lettre de la musique devienne une âme. C'est-à-dire, en un sens, soit infidèle à l'être. Ce n'est pas la lettre qu'on entend, mais il faut être tout imprégné de l'esprit dans lequel cette lettre a été écrite. Et en conséquence, il faut avoir de soi-même une espèce de tenue il n'y a que la tenue, je veux dire, c'est moral, ce n'est pas autre chose. Une façon de ne pas dévier, de ne pas se laisser tenter, de ne pas rompre le rythme, de ne pas se perdre dans des détails, de ne pas s'écouter soi-même, où tout d'un coup on a envie de pleurer ou envie de rire.
Troisième des six moments musicaux de Franz Schubert sous les doigts de Rudolf Serkin. André Tuboeuf, Serkin et Schubert.
Ah ben, ça a été la révélation, parce que tout le monde pense que la révélation de Schubert, ça a été les disques d'Alfred Brendel à la fin des années 70. Et effectivement, là, il y a eu une somptuosité de son, et puis le long playing et les attachés de presse. Et en fait, tout un événement Schubert qui a été créé, puis il s'agissait d'une espèce d'intégrale du piano d'après 1824. Donc voilà, ça marquait. Serkin, il était comme l'émigrant de Charles Chaplin, n'est-ce pas? Il était là, il était avec son ballot et son petit Schubert là-dedans, et il en jouait autant qu'il en pouvait. Mais quand il en jouait, c'était les moments musicaux qui n'étaient pas bien illustres. C'était la sonate Rilly-Couillet, qui continue à être extrêmement peu connue. C'est-à-dire que, comme en toute chose, il a abordé Schubert par la fois le plus simple et le plus difficile. C'est-à-dire ce qui parle par soi-même. Et il y a tellement insisté que c'est certainement lui qui a créé l'espèce d'aura de légende qui a fini par s'établir autour des trois dernières, les trois ultimes sonates de Beethoven, et notamment auprès des deux dernières, la majeure et la si bémol,
de Schubert,
959 et 960, simplement parce que il déployait dans une vision qui pouvait être la simple vision de promenade, pour la dernière, mais une vision aussi de promenade au bord du gouffre et interrompue par l'apocalypse elle-même dans l'avant-dernière. En assumant ces deux sonates pleinement, en faisant régulièrement des fins de ses propres récitals, d'une certaine manière, il a témoigné d'une manière grande de ne pas les laisser à leur statut de divine longueur, et de perpétuelles reprises, de perpétuels ressassements mélodieux, mais de faire apparaître la structure, l'os, la sobriété, la douleur. Et je dois dire, comme il était extraordinairement convaincant et engagé dans ce qu'il faisait, on l'a cru. C'est-à-dire que d'une certaine manière, à jamais on s'est dit « Schubert n'est pas fade ». D'aucune manière il n'est fade.
un extrait de l'Andante du 12e concerto pour piano de Mozart, Rudolf Serkin toujours évidemment au piano, l'Orchestre Symphonique de Londres, dirigé par Claudio Abbado, André Tuboeuf. Ces enregistrements des concertos de Mozart effectués par Serkin à la fin de sa vie avec Abbado ont mauvaise presse, je crois que vous les aimez pas trop non plus.
Mais ils ont mauvaise presse. Des gens ont pu se dire que c'était les doigts de Serkin qui étaient fatigués parce qu'il était devenu vieux, ce qui n'est pas vrai du tout.
Non, pas dans ce qu'on entend.
Mais simplement ce qu'on entend dès le début, dès l'exposition orchestrale, c'est un orchestre qui s'écoute lui-même, un orchestre qui a des intentions pour lui-même, un orchestre qui a une existence pour lui-même. Et c'est là un mariage discographique, comme on a essayé de marier une fois Serkin à Rostropovitch. Voilà.
Tempérament, c'est tellement éloigné. Oui,
et ça n'a pas tellement bien marché, mais avec Abbado, à mon sens, ça ne marche pas du tout, simplement parce que le meilleur de ce que Serkin a produit en concerto, il l'a toujours produit avec les gens de Marlborough, c'est-à-dire des instruments ayant chacun une valeur soliste, mais l'orchestre n'ayant pas de valeur pour lui-même et n'ayant pas à faire ses effets pour lui-même, comme on entend ces alanguissements que nous venons d'entendre, ces alanguissements et ces renflements soudains qui sont expressifs, je dirais, qui sont le contraire même du jeu de Serkin. Et c'est pour ça que ça n'a jamais marché, d'autant plus qu'il dupliquait d'une certaine manière, pour la plupart d'entre eux au moins, des choses que Serkin avait déjà réalisées beaucoup mieux. Et le tragique, si vous voulez, quand il est vrai qu'il n'a enregistré ni tous les concertos de Mozart, ni toutes les sonates de Beethoven, c'est qu'en l'occurrence, ce dernier effort était comme un coup de pied dans l'eau. Enfin, on n'aurait que ça, on serait content de l'avoir, bien entendu, à cause de Serkin.
Très bien, merci beaucoup André Tuboeuf. J'invite nos auditeurs à poursuivre le contact avec Rudolf Serkin en se plongeant dans votre essai Rudy, la leçon Serkin, qui vient de paraître chez Actes Sud. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Nadège Antonini, attachée de production Annick Aumier. Excellente journée à l'écoute de France Musique. Rendez-vous samedi prochain.
À réécouter sur francemusique.fr.